C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme.
You talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking? You talking to me?
Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Eastwood. Clint Eastwood.
Marcello, come here.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Eau de Radio en ce mardi 17 mars 2026. Il est 14h pile, oui, encore. Comme hier et comme demain sans doute. Si nous arrêtons de parler météo, si nous arrêtons de parler de la guerre, si nous arrêtons de parler politique, de quoi pouvons-nous parler ? Dans tout un tas d'autres choses, mais surtout de cinéma. Car ici, à Ciné-100, on parle de cinéma qui est loin, très loin d'être déconnecté de la société. Je dirais même qu'il fait société. Bref, le cinéma reflète le monde qui nous entoure, ses mœurs et ses dérives, mais aussi son évolution. D'ailleurs, en parlant d'évolution, j'ai avec moi celui qui est capable de passer d'un comportement à un autre en un claquement de doigts sur scène. Bonjour Patrick.
Bonjour Anne-Lise, comment allez-vous ?
Ça va et vous ?
Oh, je suis ravi d'entendre cet éloge. Dans quel état vous êtes aujourd'hui ? Je suis dans un état, je ne sais pas, je suis assis.
Ah, c'est déjà pas mal.
Oui.
Et je suis également accompagnée de celui qui refait l'histoire en fonction de son public.
Oui,
bonjour Jean-Jacques.
Bonjour Anne-Lise, bonjour Patrick.
Bonjour Jean-Jacques.
Moi ça va très bien.
Bien. Et nous avons également en régie Lorane.
Bonjour Lorane.
Voilà. Dans notre épisode d'aujourd'hui, nous devions recevoir une invitée qui malheureusement a eu un changement d'emploi du temps. Donc nous avons dû modifier notre planning. Et pour cet épisode numéro 20, Jean-Jacques, nous allons faire un tour du côté des films de plus de 3 heures.
Oui, alors figurez-vous qu'en 2019, la sortie de La Flore, film fleuve de 14 heures de l'Argentin Mariano Llenas, a soulevé une question. Quels sont les films les plus longs de l'histoire du cinéma ? Ah. Alors, bon, déjà, les films longs ne datent pas d'hier. En 1916, Intolérance de Griffiths atteignait les 3h17. Autant emporte le vent de 39, 3h58. Ouais, mais alors ça, c'est pour les moins longs des longs. Tout le cinéma de Jacques Rivette est dans What Out One, résumé Bulogier, elle-même actrice du projet titanesque d'une durée de 12h29. Je continue. Le 31 décembre 2020 était prévue une projection de la version intégrale du film expérimental suédois, en noir et blanc, sans dialogue, ambiancé d'Anders Weberg. Sa durée était estimée à 720 heures.
D'accord. Il y a de la pellicule gâchée.
Ouais,
quand même.
Alors, il devait être diffusé lors d'une projection mondiale de façon simultanée dans plusieurs musées à travers le monde, puis détruit.
Ah, d'accord.
Mais l'événement n'a finalement pas lieu.
Est-ce qu'il a été détruit ?
Mais oui, mais la projection n'a pas eu lieu. Et figurez-vous que la bande-annonce du film durait 7 heures. Bon alors, se pose alors une question, bien sûr. La longueur d'un film augmente-t-elle ses chances de prix ? Ben-Hur, de 3h27, rafla 11 Oscars. Heureusement, le succès d'un film ne se mesure pas seulement par sa durée. Les producteurs devraient même peut-être prendre en compte l'accueil réservé à certains films longs. Killers of the Flower Moon avait tout pour gagner des prix en 2023. Martin Scorsese aux manettes, un casting de choix et une durée de 3h26. Et pourtant, il n'a récolté aucun César, ni Oscar d'ailleurs. Voici donc venir quelques longs films au parcours plus ou moins chaotique, au succès plus ou moins important, mais aux rythmes étirés. Alfred Hitchcock avait peut-être raison de clore le débat d'une seule phrase. La durée d'un film devrait être directement liée à la capacité de la vessie humaine.
Quand c'est long, c'est trop long.
Voilà.
C'est pas faux. Alors, Laurence Kasdan, à qui l'on devait le retour du western dans les années 80 avec Silverado, nous livre en 94 un Wyatt Earp de bonne facture et d'une durée de 3h32 dans sa version longue. Il s'agit d'une reconstitution minutieuse et ultra réaliste du vieil Ouest, servie par de solides acteurs et de beaux décors. Le film est l'évocation de la vie d'un personnage devenu légendaire, Wyatt Earp, justicier impitoyable qui affronta le clan des Clayton dans un des épisodes les plus célèbres et les plus sanglants de l'histoire de l'Ouest américain. Tous les ingrédients du western classique sont réunis, les méchants, les gentils, les femmes fatales, les lieux de débauche. Mais on peut se demander si les gentils le sont réellement. Wyatt Earp et ses frères ont une manière bien à eux de faire régner l'ordre. Bande annonce.
J'ai quelque chose à te dire, Wyatt. J'ai parlé à tes frères quand ils sont partis se battre. Maintenant, ton heure est venue. Tu le sais, je suis un homme qui croit en la justice. Après la famille, c'est la seule chose en laquelle je crois. Mais le monde est plein d'hommes qui bafouent la justice. Des hommes qui ne reculent devant rien et se moquent de faire le mal. Quand tu te retrouveras face à de tels êtres sans scrupules, tire le premier si tu peux. Et quand tu tireras, tire pour tuer.
Qu'est-ce que tu comptes faire ?
Les abattre tous.
Je serai ta famille. Je te donnerai des enfants. Je nous construirai un refuge où personne ne nous trouvera. Et je ne t'abandonnerai jamais.
Je suis déjà mort. Alors si tu décides d'en finir en beauté, je serai avec toi.
Plus tu resteras proche de ta famille, mieux ce sera. Rien ne vaut les liens du sang. Tous les autres sont des étrangers.
Oh, je pleure.
Alors, Wyatt Earp a une vision un peu étrange de ce que la loi permet. Un certain président américain ne ferait pas autrement aujourd'hui. Earp règle les problèmes à coups de revolver. Pour lui, la loi et la justice ne sont jamais les deux sœurs d'une même idée de la vie collective. Sur le plan cinématographique, le film est ultra classique. Pas d'effet de caméra, les seules fantaisies que se permet Kasdan, ce sont des changements de points sur les personnages. Il est un formidable directeur d'acteurs, par
et
contre.
Alors, en parlant d'acteurs, oui. Kevin Costner oui. est excellent dans le rôle
excellent.
Titre.
On peut le dire.
À la fois d'une détermination sans faille et d'un doute permanent de ce qui doit être un homme dans sa vie d'homme. Si on savait que Costner était taillé pour le western, alors plus attendu était la prestation de Dennis Quaid en Doc Holliday, alcoolique et tuberculeux, maqué par Big Nose Kate, incarné par une Isabella Rossellini, méconnaissable en putain hargneuse. Tous deux donnent une image beaucoup plus proche des personnages historiques, n'est-ce pas ? Notez la présence dans le film de Mark Harmon, figure devenue célèbre du petit écran, en la personne de Leroy Jethro Gibbs, que je ne connaissais pas, dans la série
NCIS.
Oui.
NCIS.
Ah
oui, NCIS. Et oui, oui, tout à fait.
Oui, bien sûr,
dès que je l'ai vu.
Bah oui.
Parce qu'il a, et pourtant, il avait une moustache.
Oui, alors après,
dans la série, il n'a pas de moustache.
Et après quoi ?
Mais alors, bon, peut-être que le film est un peu trop long ou trop classique pour certains.
Ouais.
Wyatt Earp mérite d'être réévalué à sa juste valeur, celle d'un bon petit western hollywoodien académique, dans le bon sens du terme, par contre. Parfaitement mis en scène et bénéficiant du charisme de Costner en Wyatt Earp, plus complexe qu'à l'accoutumée.
Précision historique.
Oui.
Alors, Wyatt Berry Stapp Earp a réellement existé.
Tout à fait.
C'était un chasseur de bisons et un agent de la police fédérale, un marshal donc.
Oui.
Et il est décédé en 1929, à l'âge de 80 ans à Los Angeles, de son vivant. Il rencontra de nombreux acteurs qui tournaient les premiers westerns à Hollywood, parmi eux Marion Morrison, qui deviendra célèbre par la suite sous le nom de John Wayne.
C'est marrant, cette histoire. Hein.
Ouais. Et ouais.
Comme quoi, la fiction rejoint la réalité.
Et oui, tout à fait.
Bon, alors même si on peut lui reprocher d'être trop présente, la musique de James Newton Howard sert le discours d'un retour au classicisme que n'aurait pas renié John Ford ou Clint Eastwood.
Thank you.
Alors, il est des longs films qui sont des adaptations de longs romans, n'est-ce pas ? C'est le cas du très long métrage de King Vidor, sorti en 1956, « Guerre et paix », adapté du roman de Léon Tolstoï. L'œuvre originale de Tolstoï était une longue épopée historique se déroulant sur 1572 pages. Eh bien, Vidor en donnera une adaptation de 3h14.
Ce qui est déjà pas mal.
Oui, pas mal.
Alors, le livre « Guerre et paix » de Tolstoï résume 10 années de l'histoire de la Russie, de la bataille d'Austerlitz à l'incendie de Moscou. Pour King Vidor, tout commence à Moscou en 1805. La jeune comtesse Natacha est fiancée au prince André et a pour meilleur ami le prince Pierre. La guerre éclate, Pierre et André partent au front tandis que Natacha décide de s'occuper des malheureux. Mais André est tué au combat et à son retour, Pierre retrouve une jeune femme assagie par les épreuves et la dureté du temps.
Alors voici la scène du balcon où l'on peut voir Natacha, alias Audrey Hepburn, qui livre ses sentiments pour le prince André, sans savoir que celui-ci est à l'étage en dessous et il entend tout. Le prince est interprété par le silencieux, on l'entendra pas dans l'extrait, Mel Ferrer, qui était l'époux d'Audrey Hepburn à la ville.
Natacha, viens te coucher, tu vas prendre froid.
Mais non, d'ailleurs je n'ai pas sommeil. Après une journée comme celle-ci, il est impossible de dormir. Comment peut-on dormir?
On vient voir comme la lune est claire cette nuit.
Crois-tu que le prince André nous aime?
Évidemment.
Il est si étrange.
Il reste toujours ainsi, immobile, comme s'il nous jugeait.
J'ai un petit peu peur de lui, pas toi?
Non.
J'ai un peu peur de lui et pourtant, lorsque j'ai chanté après le dîner, j'ai eu envie d'aller vers lui, de lui prendre la main et de ne chanter que pour lui seul. Le malheureux, il ne serait jamais revenu ici si j'avais fait cela. As-tu remarqué qu'il ne souriait presque jamais? Pendant que je chantais, je me suis retournée tout d'un coup et je l'ai surpris qu'il me regardait. À ce moment-là, il souriait. J'ai cru... Oh, c'est impossible à dépeindre.
C'était comme si quelqu'un m'avait fait le plus merveilleux des cadeaux.
Viens te coucher, Natacha. Il est horriblement tard.
Oh, pourquoi faut-il toujours que tu gâches tout? Par une nuit comme celle-ci, je me sens tellement heureuse et si légère qu'il me semble que je pourrais m'envoler.
Attention, tu vas tomber.
Mais non. Moi, je trouve honteux de se coucher par une telle nuit. C'est un peu comme si on était baigné de musique, qu'on ait l'impression que le prochain accord, ou bien celui d'après, sera la chose la plus merveilleuse qu'on ait jamais entendue de toute sa vie. Et que si par hasard elle s'arrêtait, on ne pourra jamais l'oublier. Plus jamais.
Adapté au cinéma, ce monument de la littérature russe est une gageure. Lorsque cette adaptation émane d'Hollywood, on a encore plus de raisons d'être inquiet. Pourtant, King Vidor parvient à lui donner une belle ampleur. Doté de très nombreux figurants, les scènes de bataille sont grandioses, voire époustouflantes. Cet aspect spectaculaire est le plus réussi du film.
En revanche, King Vidor ne parvient absolument pas à restituer la profondeur du roman de Tolstoï. À défaut d'y trouver cette fameuse âme russe ou un début de dimension philosophique, ce « Guerre et paix » de Vidor est un beau spectacle.
Oui, puis alors la distribution internationale, n'est-ce pas ? J'ai cité Audrey Hepburn, Mel Ferrer, je rajouterai Henri Fonda, plus étonnant Vittorio Gassman et Anita Ekberg. Hein, c'est Marcello, Camille, voilà. Un mot en particulier sur Henri Fonda. Oui, ça vous intéresse ?
Oui, bien sûr.
Alors figurez-vous qu'au moment du tournage du film, il avait 50 ans, alors que son personnage était initialement censé en avoir une vingtaine d'années. Et ben, Henri Fonda a admis par la suite n'avoir joué dans Guerre et paix que pour le cachet qu'il y avait à la clé, sachant très bien qu'il était trop vieux pour ce personnage. Voilà, là.
Bravo. Pour les grandes scènes de combat du film, les producteurs engagèrent 65 médecins qui furent habilités en conséquence, puis dispersés sur le champ d'action afin de venir en aide aux cascadeurs et figurants blessés lors du tournage de ces scènes. 8000 chevaux furent utilisés.
Alors, outre son budget démesuré, pour l'époque bien sûr, le tournage fut grandiose. 11 studios furent utilisés pour la réalisation. Sans compter la bataille de la Bérézina qui fut tournée dans le nord de l'Italie et l'incendie de Moscou qu'on filma en Yougoslavie. Le montage initial faisait du film une tragédie de 6h20. Bien sûr, impossible à commercialiser. Hein. Et elles furent amenées à 3h30, puis à 3h14.
Et la musique est signée Nino Rota, dont la valse de Natacha.
« combien de fois j'ai vu les mêmes films qui repassent comme ça, 2-3 fois dans l'année. Moi, je trouve que c'est dingue.
Et oui, c'est dingue, ce petit jingle qui nous introduit à la séance ciné-télé et canapé. Ce sont les films qui vont passer à la télé cette semaine. Et on vous en a choisi 3, un chacun. Voilà.
Oui. Et bien, c'est... tout à fait.
Allez, qui est-ce qui commence ?
Je vais commencer.
Allez,
une fois,
Patrick.
Eh bien, moi, je vous propose un film de 1957 qui passe mercredi, donc demain, à 20h50 sur TCM Cinéma.
En prime time ?
En prime time.
C'est un grand film.
C'est un très grand film. Alors, c'est un film de John Sturges. Si je vous donne le pitch, peut-être que vous allez trouver.
Peut-être, peut-être.
Allez,
peut-être.
On y va. Sur la piste d'un dénommé Ike Clayton, Wyatt Earp, shérif de Dodge City, débarque à Fort Griffin, petite bourgade de l'Ouest, sous l'autorité de l'un de ses amis, le chef Cotton Wilson. Il déchante vite lorsque son ami a retourné sa veste et a laissé Clayton s'échapper. Il tente malgré tout d'en savoir plus auprès d'une figure notoire de la région, le célèbre joueur de poker Doc Holliday, mais celui-ci le déconduit froidement. Plus tard dans la nuit, Doc Holliday vient en découdre avec l'un des frères d'une de ses victimes pour faire face aux foudres de la population excédée par les troubles qu'il provoque. Un peu plus tôt dans cet épisode, nous avons parlé du film de Lawrence Kasdan, Wyatt Earp.
Oui, et alors c'est règlement de compte à OK Corral.
Bien joué, Jean-Jacques, ouais, tout
vrai,
à fait.
Ouais. Parce qu'il a servi de base.
Absolument,
oui. Ouais.
Donc voilà, et c'est donc plaisant de voir ce film de Sturges.
Bien sûr, c'est plaisant.
En opposition.
Mais alors,
c'est
parfait.
Une autre lecture de l'histoire, surtout. C'est ça qui est intéressant.
Oui.
L'histoire n'est pas racontée de la même manière.
Voilà, exactement.
C'est
il y a
exactement
un autre
ça.
Film aussi qui a servi de base, la même année qu'a sorti Wyatt Earp.
Oui.
Mais je ne me rappelle plus le titre.
Donc, d'accord, c'était intéressant.
C'était intéressant.
Belle intervention.
C'est où déjà ?
Et c'est sur quelle chaîne ?
C'est sur TCM Cinéma à 20h50, demain soir, mercredi.
Mercredi, très bien.
Règlement de compte à OK Corral.
Après.
Un film de 57.
Jean-Jacques.
Oui, alors moi, c'est un documentaire.
Ah. Ouais, d'accord.
Je vous ai déjà parlé de ce documentaire-là. Alors ce sera dimanche 22, donc à 20h55 sur France 5.
C'est des trains.
C'est des trains pas comme les
des
autres.
Des trains pas comme les autres.
Vous savez, avec Philippe Googler, le journaliste qui nous invite à le suivre. Alors là, ce sera dans les trains argentins. Il va partir de la Patagonie pour aller dans les glaciers du Sud. Mm-hmm. Et alors, ça traverse des paysages magnifiques et époustouflants. Et puis surtout, dans cette émission, c'est l'occasion, dans ces voyages partants, de rencontrer des gens du cru,
oui.
De discuter avec eux, de voir les coutumes, les us et coutumes, la culture. Ouais. Enfin, c'est très passionnant pour ça. Donc, c'est à 20h55 sur France 5. Mais si vous êtes passionné, eh bien, dans la foulée, vous pouvez prendre un second billet pour le train, puisqu'il y a un deuxième épisode qui, alors, c'est toujours en Argentine, mais cette fois-ci dans les Cordillères des Andes et à Buenos Aires.
D'accord.
Voilà. Les trains, pas comme les autres. C'est vraiment super.
Et c'est quand ?
Mais je vous l'ai dit, dimanche 22, vous écoutez pas.
À quelle heure ?
À 20h55,
et
sur
et c'est
France 5.
Et
sur
voilà.
France 5, d'accord. Voilà.
Bon, et vous,
il ne faut pas vous énerver.
Mais je ne m'énerve pas.
Oh là là.
Il est complètement cyclotimique.
C'est complètement. Eh bien, moi, je vais vous parler d'un film qui va venir mercredi 18 mars à 21h10.
Règlement compte à OK Corral.
Pas du tout, sur la chaîne Novo.
Oula, ça existe.
C'est une nouvelle chaîne.
Ah oui, d'accord.
C'est un film de Clint Eastwood avec Bradley Cooper et Sienna Miller.
Oui.
Chris Kyle est un sniper américain surnommé la légende pour sa précision
American
mortelle.
American sniper.
Yeah. Grâce à cette... Tout à fait.
C'est Eastwood, ça ?
C'est Clint Eastwood,
oui.
American sniper.
Ah ouais, très bien.
Je sais plus où j'en étais. Grâce à cette performance, il sauve des vies sur le champ de bataille, mais à chaque nouvelle mort, le précipite vers l'abysse de sa propre destruction.
Oui, voilà.
Mais arrêtez de me couper la parole et vous comprendrez, Jean-Jacques.
On va vous tirer dessus, faites gaffe.
Entre tension des zones de combat et protection de sa famille, il doit affronter chaque démon pour garder son humanité. C'est un très grand film.
C'est un bon film.
Ouais, c'est un bon film.
Un bon film. C'est un bon Clint Eastwood.
Mais vous en avez pas assez de la guerre
Eh bien si, bien sûr, mais là...
Si justement, je voulais vous proposer un autre film qui s'appelle Usual Suspect.
Oui, c'est vrai, il y a ça aussi.
Qui passe dimanche 22.
C'est beaucoup plus calme, c'est sûr.
Bon, tout à fait.
Alors donc, vous nous conseillez quand même de voir un film de guerrier.
Ah bah oui, American Sniper sur Novo à 21h10, mercredi 18 mars,
bon,
ou alors Usual Suspect, si
mais
vous
c'est
voulez.
Plus que de la guerre, en fait.
Bon,
oui.
Allez, c'est bon, revenons à nos films
revenons
longs,
à notre
de 3 heures.
Alors, figurez-vous qu'il n'y a pas que la durée des films qui peut être longue.
C'est vrai.
Non, non. Il peut y avoir aussi des titres. En 67, par exemple, Peter Brook adapte pour le cinéma Marasad, dont le titre originel était à l'époque le plus long de toute l'histoire de la production cinématographique. Je vous dis, sans respirer.
Allez-y.
La persécution et l'assassinat de Jean-Paul Marat, interprété par les détenus de l'asile de Charenton, sous la direction du marquis de Sade. Voilà, faut y aller. Devant l'opposition des producteurs face à un tel titre, ce dernier a été raccourci en Marasad.
C'est beaucoup plus court. Citons également « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme qui boit dans les cafés avec les hommes en 1980 ?» Ou alors « La robe et l'effet qu'elle produit sur les femmes qui la portent et les hommes qui la regardent » d'Alex Van Warmerdam. En 96.
Avec un titre pareil, on peut le dire.
Alors j'ai aussi, si vous voulez, « Pourquoi les hommes n'écoutent jamais rien et les femmes ne savent pas lire les cartes » réalisé par Lander Haussmann en 2007. Et même Ettore Scola s'y est mis en 68 avec « Nos héros réussiront-ils à retrouver leur ami mystérieusement disparu en Afrique ?»
Alors, il est plus facile de ne garder sur l'affiche et en titre raccourci que le nom du sénateur romain Othon, dont il est question dans un film de 71, parce que son titre intégral aurait à peine tenu sur l'affiche, et en plus d'être difficilement exploitable, commercialement parlant. Écoutez, jugez plutôt, le titre initial était Othon, les yeux ne veulent pas en tout temps se fermer, ou peut-être qu'un jour Rome se permettra de choisir à son tour.
Voilà.
Oui,
voilà.
Pas très bien.
Bon, on
est temps de lire le titre.
On a le temps de lire le titre, notre glace a fondu.
Absolument.
Alors, au programme maintenant,
voilà.
Voici un film de 3h16, Winter Sleep, sorti en 2014. C'est une réalisation de Nuri Bilge Ceylan. Et Nuri est né le 26 janvier 59 à Istanbul. Il est cinéaste et photographe. Son court-métrage Koza a concouru pour la Palme d'Or du court-métrage au Festival de Cannes en 1995. Son œuvre est austère, exigeante, décrite par petites touches impressionnistes la difficulté de vivre pleinement sa vie dans les sociétés modernes à travers la peinture des relations intimes et sociales contaminées par les rapports de classe. La famille, l'amitié et bien sûr le couple. Winter Sleep est de ce bois, fait de petites touches de lumière dans un univers sombre et presque désespéré.
Aydin, comédien à la retraite, dirige un petit hôtel de Cappadoce en Anatolie centrale avec sa jeune épouse Nihal, dont il s'est sentimentalement éloigné, et sa sœur Nekla, qui souffre encore de son récent divorce. En hiver, la neige recouvre la steppe et l'ennui ravive les rancœurs, poussant Aydin à partir. Mais pour finir, il ne part pas, ne pouvant s'éloigner de Nihal, même si celle-ci a cessé de l'aimer.
Alors c'est par petites touches que le metteur en scène nous dévoile l'intériorité de ce personnage narcissique qui utilise sa position sociale, qu'il a acquise par héritage, sa culture et son intelligence pour user et abuser de violences émotionnelles et symboliques sur son entourage, dont il pourrit et corrompt la vie. Nuri Bilge Ceylan, à l'image de Tchekhov, nous donne à voir ce qui se cache derrière les oripeaux des apparences au travers de suites de dialogues étirés qui dévoilent un individu arrogant qui ne connaît que les relations humaines sous la forme de dominant à dominer. Lors d'une conférence de presse au Festival de Cannes 2014, le cinéaste revenait sur la longueur de son film.
Est-ce que vous allez faire un film encore plus long la prochaine fois ?
Of course not. Actually,
non,
when I,
bien entendu.
Write the script,
quand j'ai écrit le scénario, je n'avais pas pensé à l'aspect commercial. J'écris un petit peu comme un écrivain, quelqu'un qui écrit un roman. Il ne se préoccupe pas de la longueur du livre ou du roman. Mais en écrivant le scénario, je me suis rendu compte que ça durait deux fois plus longtemps que mon film « Il était une fois en Anatolie ». Mais j'ai respecté tout le scénario. Au départ, le film durait 4h30. Mais lors du montage, j'ai raccourci un peu le film. Ma femme et moi-même avons écrit le scénario ensemble. À cause du récit, à cause des personnages, nous avons opté pour un film très long. Nous avons en fait suivi les personnages et nous avons découvert que nous avions un scénario extrêmement long.
Alors Nihal, magnifiquement interprété par Mélisa
Sauzon,
nous présente une jeune femme lucide sur sa situation, désireuse de s'en sortir et de vivre telle qu'elle souhaite le faire, avec retenue et force intérieure. Alouk Belguiner dans le rôle d'Aydin est retors, pervers, humain finalement. Il ne peut se résoudre à partir moins parce qu'il aime sa femme que parce qu'il aime la dominer.
Certains ont reproché à Sailing la lenteur de sa narration.
Ouais.
Mais pouvait-il aller plus vite pour montrer la lente décomposition d'un couple livré à lui-même hein, fût-ce dans des paysages somptueux de l'Anatolie enneigée.
Je confirme.
Certes, oui, là on en parlait hors micro. Ouais. Certes, c'est un film qui demande un effort de concentration, d'acceptation des images sublimes proposées par le cinéaste, mais personnellement, je n'ai pas vu passer les 3h16 de ce film. C'est un chef-d'œuvre, pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu.
Oui.
La Palme d'Or du Festival de Cannes 2014 qui lui a été attribuée couronnait un réalisateur exigeant, entier, sans concession.
La BO comprend l'andottino de la sonate pour piano en la majeure de Franz Schubert. Ah.
Pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape ?
Sur 91.3 ou de radio, bien entendu.
Alors, il aura fallu pas moins de 5h58 au réalisateur italien Marco Tullio Giordano pour parcourir dans son film nos meilleures années, 40 ans de la vie italienne à travers les événements d'une famille. Un travail payant puisque le film a reçu en 2003 le prix Un certain regard au Festival de Cannes.
À la fin des années 60, deux frères d'une famille italienne, Nicola et Matteo, partagent les mêmes rêves, les mêmes espoirs et les mêmes amitiés, jusqu'au jour où la rencontre avec Giorgia, une jeune fille souffrant de troubles psychiques, détermine le destin de chacun. Nicola choisira la voie de la psychiatrie, alors que Matteo, ayant besoin d'ordre et de discipline, abandonnera ses études pour devenir carabinier. Leur parcours ainsi que celui du reste de la famille s'inscrivent en parallèle avec les événements qui ont joué un rôle crucial dans l'histoire de l'Italie. L'inondation de Florence, la lutte contre la mafia en Sicile. Nicola rencontrera sa future femme Giulia et qui lui donnera une fille, Sara. Mais après l'agitation de 68, incapable de trouver sa place dans la société, Giulia abandonnera Sara et Nicola, devenus directeurs d'un HP, pour s'engager dans la clandestinité au profit des Brigades Rouges. Tiens, voici la première rencontre entre Matteo et Giorgia.
Le terme scientifique est logothérapie. En pratique, il s'agit de promener une de nos patientes, de lui faire un peu de conversation et de l'aider à se sentir normal. Ce n'est pas un rapport d'amitié, c'est une entreprise de réhabilitation. Georgia n'a pas eu de crise depuis longtemps. Par conséquent, il suffit que tu viennes 2 ou 3 fois par semaine. Viens. La voilà. C'est elle. Tu verras, ce sera plus facile que de promener un chien.
Toi, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Toi, comment tu t'appelles?
Georgia, tu ne dois pas t'adresser à des gens que tu ne connais pas.
Et toi, comment tu t'appelles?
Moi, Mathéo.
Mathéo le marteau, Mathéo le marteau.
Qu'est-ce que tu fais? Attention! Non, non, je te touche pas, mais fais attention, on est dans la rue. Il faut regarder d'abord à gauche et puis à droite. Fais attention, hein. Regarde bien les voitures. Voilà. Attention! Putain! Non, mais qu'est-ce que tu fais?
Me touche pas!
Mais je te touche pas! Eh, hey, va te faire foutre, toi!
Va te faire foutre!
Quoi, je te touche pas? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux te faire renverser ou quoi?
Imbécile, tête de con, sale petit merdeur!
Excuse-moi, mais tu sais ce que ça veut dire, mourir?
T'es un con!
C'est toi qui es conne!
Va te faire foutre!
Va te faire. Ah! Mais t'es dingue, toi! Allez, tiens, viens avec moi maintenant! On retourne à la clinique, tu veux pas sortir avec moi? Eh ben alors, tu sortiras plus! Bah, oui, ça j'ai compris, ça lui arrive de temps en temps, mais quand ça lui arrive, qu'est-ce que je dois faire?
Rien. Tu ne dois pas réagir. Si tu ne fais rien, très vite, elle va se calmer.
Excusez-moi, professeur, mais...
Non, ne m'appelle pas professeur et tutoie-moi.
Très bien, d'accord, mais j'ai peut-être fait une erreur quelque part.
Non, tu n'as rien fait, tu n'y es pour rien. C'est la faute de la maladie. Mais c'est pour ça que nous sommes là.
À travers la petite histoire de cette famille et des gens qui gravitent autour, nos meilleures années passent en vue 40 années de l'histoire italienne. Chaque protagoniste devient ainsi acteur de l'histoire collective. Marco Tullio Giordana montre sans juger cette histoire sociétale italienne pour mieux servir l'histoire qu'il a envie de raconter. Il va même jusqu'à mettre en scène la victoire de l'Italie lors de la Coupe du Monde de football en 82.
Certes, les spectateurs peu connaisseurs de l'histoire moderne italienne ne pourront pas se reconnaître dans chaque événement, voilà. Mais ils seront imprégnés par certaines ambiances qui leur sont internationales. Alors, le mouvement hippie, les révoltes estudiantines, les violences extrémistes et autres. L'une des grandes forces de Giordana est de mêler avec dextérité la petite et la grande histoire et au travers de ces 40 années de donner plus de profondeur, de relief aux vies de ces personnages.
Alors la première partie du film est caractérisée par la générosité de la jeunesse, la fougue, la fuite en avant, tandis qu'ensuite vient le temps des premières désillusions de l'âge adulte, des générations qui passent, de ceux qui naissent et de ceux qui vieillissent et de ceux qui meurent.
Film épique ou saga romantico-historique, dans nos meilleures années, on rit, on pleure, on s'attache, on vit au rythme de ces personnages, acteurs en marche de l'histoire italienne. Alors, le film a disposé d'un budget de 6 500 000 euros. Le tournage a duré 24 semaines, dans 240 lieux différents, ça fait beaucoup.
C'est beaucoup, oui.
Avec parfois 2000 figurants lors des scènes de foule. Et dans la bande originale du film, on retrouve Mina qui chante « Ora mai più », nous sommes en 1965.
La notte
mai detto. Ti voglio bene. Prego. Oh, mai.
Le dernier film de notre épisode cumule deux époques pour une durée totale de 3h02. Les Enfants du Paradis est un film français tourné de 1943 et 1944, sorti en mars 1945, réalisé par Marcel Carmé avec un scénario de Jacques Prévert. Paris, 1828. Sur le boulevard du crime, au milieu de la foule, des acteurs et des battleurs, le mime Baptiste Dubourreau, par son témoignage muet, sauve Garance d'une erreur judiciaire. C'est ici que commencent les amours contrariés de Garance, femme libre et audacieuse, et de Baptiste, qu'elle intimide et qui n'ose lui déclarer sa flamme. Mais aussi commencent les amours de Nathalie, la fille du directeur du théâtre, qui aime Baptiste, et Frédéric Lemaître, un jeune acteur prometteur, qui entame une liaison avec Garance, tandis que cette dernière aime Baptiste en secret. Bande annonce.
Alors je peux m'en aller ?
Ben oui, vous êtes libre.
Tant mieux, parce que moi j'adore ça, la liberté.
Ah, vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, c'est merveilleux. La vie est belle. Et vous êtes comme elle, si belle. Vous êtes si belle, vous aussi.
Je ne pas qu'on m'appelle aussi pleure-misère, qu'il lésineur, qu'il rat. Parce que je suis avare, comme un rat.
Toujours cruel, Pierre-François.
Je ne suis pas cruel, je suis logique. Depuis longtemps, j'ai déclaré la guerre à la société.
Tous les gens qui vivent ensemble s'aimaient. La terre brillerait comme un soleil.
Baptiste.
Tuer, j'espère.
S'il fallait tuer tous les imbéciles.
Évidemment. Et pourtant, ça simplifierait tellement les choses.
À cause de Baptiste, je suis devenu jaloux. Mais jaloux, moi.
Et moi, je ne l'ai pas écouté. Je l'ai pas prise dans mes bras. Non, j'ai posé des conditions. M'aimez-vous comme je vous aime. Je vais fermer la porte. Cette porte-là pour toujours, entre moi et mon amour.
Vous avez la tête trop chaude pour moi, Pierre-François. Et le cœur trop froid. Je crains les courants d'air.
Garance.
Laisse-la parler. Je veux tout savoir de vous deux. Mais savoir ce qui me reste.
Il y a du dialogue, hein.
Eh oui.
Ah oui, ça, c'est pas de Jules, quoi. Les Enfants du Paradis nous enivrent avec la poésie de ses dialogues, tiens, on en parlait, nous enchantent avec ses décors et ses pantomimes. Il faut toujours plus de nouveautés, alors que l'art du coup de pied au cul, monsieur, il y a toute une gamme, toute une science, tout style de coup de pied au cul, mais hélas, ces traditions se perdent. Oui, que voulez-vous ? Paris est si petit pour ceux qui s'aiment d'un si grand amour. Ah, l'amour joué par Frédéric Lemaître est une délicieuse comédie. L'amour et l'amour de l'art. C'est un grand film de cinéma qui rend hommage à ses ancêtres, le théâtre pour le verbe, la pantomime pour le geste, et aux petites gens qui, du haut de leurs grands rêves, vous applaudissent depuis le paradis. Oui, Les Enfants du Paradis est l'aboutissement de deux décennies d'un art inégalable, irrémédiablement perdu avec le déferlement du cinéma hollywoodien, installé par les terribles accords Blum-Byrnes.
Qui sont ces accords ?
Qui sont des accords qui disent qu'on n'a pas le droit de faire des bisous sur la bouche dans le cinéma.
Ah oui, c'est un autre temps.
Là, c'est un autre temps, oui. Ça.
Et au générique, vous allez me demander...
Ah oui, je vais vous le demander alors.
Mais vous le savez, mais oui. Au générique, on retrouve Arletty dans le rôle de Garance, ah, Jean-Louis Barrault dans celui de Baptiste Debureau.
Le mime.
Mais aussi l'extraordinaire Maria Cazares, Pierre Brasseur, et puis un jeune comédien qui débutait, il avait 25 ans à l'époque, Jean Carmé.
Oui.
Cette distribution qui nous vient du théâtre influence fortement la manière de se mouvoir dans l'espace et celle de dire les mots, bien sûr. Cela peut sembler un peu suranné, mais le charme est indéniable, indémodable en quelque sorte.
Quand on découvre le film pour la première fois, ouais. La magie de l'ensemble nous enchante. Les dialogues de Prévert ne sont pas étrangers à ce charme indéfinissable. Alors certes, ça peut paraître désuet aujourd'hui, mais tellement délicieux. Quand on le revoit, on court ce risque diablement important de trouver que ce quatuor infernal derrière tout ça en a trop fait pour nous éblouir. Car la vie est moins belle sans les cadrages fantastiques d'un cinéaste obsédé par la perfection, Marcel Carné, moins belle que sans les décors magnifiques d'Alessandro Tauner, et elle est moins poétique sans le dialogue d'un Prévert amoureusement mis dans la bouche des acteurs qu'ils adorent. Et la petite musique envoûtante de Joseph Kosma, la vie est moins que cela.
sans ce film. Et c'est Joseph Kosma, tiens, qui a signé la musique.
Tiens, tiens, bonsoir. Alors, t'étais aux premières loges ? C'est génial ce genre de spectacle, hein ?
Ça, c'est vrai, ça !
Bon, alors que vous soyez aux premières loges, aux dernières loges, allez-y, allez au cinéma. Et notamment, c'est l'occasion, rêver d'y aller demain, puisque c'est demain que sortent les nouveaux films sur les écrans français.
Dites-moi donc, c'est pas vrai.
C'est incroyable.
Et donc, notre séquence des sorties de demain va nous permettre à chacun d'entre nous de proposer un film à aller voir.
Elle est très opportune, surtout.
Et alors, Anne-Lise, qu'est-ce que vous allez voir ?
Eh bien, moi, je vais aller voir un film argentin de Milanos Mumenthaler qui s'appelle Las Corrientes.
Il dure combien de temps ?
Normal, je dirais 1h45, à peu près 2h. Lina, qui a 34 ans, est une styliste argentine au sommet de sa carrière. Elle part en Suisse pour recevoir un prix prestigieux et au cours de son séjour se jette sans raison apparente dans un fleuve. De retour à Buenos Aires, elle garde le silence sur cet épisode. Pourtant, de façon imperceptible, quelque chose en elle a changé. Une peur de l'eau s'installe, puis finit par paralyser complètement son quotidien. Peu à peu, ce bouleversement intérieur fait remonter à la surface un passé qu'elle croyait à jamais enfoui. C'est une fresque, c'est une histoire intimiste de cette jeune femme qui petit à petit se redécouvre à travers en fait un acte qui au départ paraît bizarre, peut-être anodin. Et on va retrouver un peu tout son passé, découvrir qui elle est à travers ce geste dont elle ne parle pas. Et les images sont assez jolies et on découvre aussi l'Argentine, un pays argentin qu'on connaît très peu en fin de compte.
Si on la connaît un peu parce qu'on est allé voir l'émission des trains comme pas comme
tout
les
à fait.
Aussi, tout à fait.
On la connaîtra mieux.
On la connaîtra mieux.
Tout est lié dans notre émission, c'est super.
C'est incroyable.
Ça rebondit.
Qu'est-ce que c'est beau.
Alors rappelez-nous le titre.
Ça s'appelle Las Corrientes.
Qu'est-ce que ça veut dire en français?
Ça veut dire
Las Corrientes.
Las Corrientes.
Oui, très bien.
C'est
oui.
les cailloux du monde.
Tout à fait.
D'accord. Vous êtes sûr de vous? Non, c'est n'importe
quoi. Absolument.
Si, tout à fait.
Les cailloux du monde, c'est Laurent qui m'a soufflé la
heureusement
réponse.
Heureusement qu'elle est bilingue, français-argentin. Ouais.
Bon, on va arrêter là nos bêtises. Après, qu'est-ce qu'on a?
Vous avez
Patrick,
quelque chose?
Vous avez quelque chose?
Patrick.
Moi, j'ai quelque chose, oui.
Allez-y.
Alors, pourquoi t'exiler au poète?
Qui ça?
Dans la foule ou la nuit où nous te voyons.
Non, refaites-le parce que...
Alors, pourquoi t'exiler au poète? Au poète? Au poète.
Bon,
pourquoi t'exiler au poète dans la foule où nous te voyons? Que sont pour ton âme inquiète les parties chaos sans rayon. Dans leurs atmosphères souillées meurt ta poésie effeuillée, leur souffle égare ton encens, ton cœur dans leur lutte servile et comme ces gazons des villes rongés par les pieds des passants.
C'est pas beau de boire.
Alors je ne bois pas, le problème c'est que j'ai un problème de vue.
Mais vous n'avez pas vos lunettes?
Non, je ne peux pas les mettre si je lis.
Et vous voyez pas quand vous...
J'ai des lunettes qui ne servent à rien,
mais
en fait.
Vous passez d'un état à l'autre.
Je passe d'un état à l'autre, mais aveugle ou voyant, ça dépend.
C'est quel film que vous voulez nous
Alors,
nous indiquer,
ça, vous savez ce que c'est, ce poème-là? C'est un poème de Victor Hugo.
Oui, mais bien sûr.
Qui est un recueil de 44 poèmes qui est paru sous le titre Les rayons et les ombres. Tiens! Comme c'est bizarre, c'est aussi le titre d'un film de Xavier Giannoli avec Jean Dujardin, Nastia Golubeva et Auguste Diehl.
Qui nous avait fait un magnifique Illusion perdue, Giannoli.
Tout à fait, absolument. Ouais. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire vraie de Jean et de Corinne Lucher, père et fille, qui sont pris dans l'engrenage de la collaboration. Alors, c'est un film assez sombre, hein, assez dense. Où Jean Dujardin est assez phénoménal, je dois dire. Je l'ai rarement vu aussi intriguant. Il dit oui, je refuse la collaboration, mais en même temps, je ne veux plus que ma fille qui est là vivra dans un monde sans guerre, alors qu'elle a 6 ans. Et donc voilà, c'est un film assez intéressant. Je pense que pour avoir vu la bande-annonce, il me plaît à penser que ça peut être bien.
C'est votre conclusion.
Très bien.
Bon, j'en ai d'autres, des conclusions.
Mais c'est bien. Et donc, ça s'appelle
Des rayons et des ombres.
Oui, vous êtes sûr du titre?
Des rayons et les ombres.
Bon.
Les rayons et les ombres.
Voilà.
De sans Xavier vos yeux, Giannoli. Ça ne va pas très bien. Bon, enfin,
bon, Jean-Jacques.
Bon, moi, il n'y a pas grand-chose qui m'a attiré cette semaine-ci, mais j'en ai trouvé un qu'en fait, un film français.
Vous me l'avez piqué, donc.
Un film d'Anthony Deschaux. Alors, je vous donne le pitch que fait Allociné sur ce film. C'est Audrey, une fille d'agriculteur et une chef de rayon dans un hypermarché de province, qui se voit propulsée comme chef à la centrale d'achat de son enseigne afin d'y défendre les filières bio et locales. Alors, elle fait équipe avec un négociateur aux méthodes assez redoutables et elle va devoir se battre pour faire exister ses convictions au sein d'un système impitoyable. Donc, c'est une plongée, semble-t-il, très documentée dans l'univers des négociations entre supermarchés et fournisseurs. Vous savez, ces négociations réputées opaques et brutales, quoi.
Tout à fait.
Et Anthony Deschaux, le réalisateur, a fait un gros travail de recherche, partant d'articles de presse, de documentaires, pour finalement réaliser ce qui est un thriller. Assez captivant, quand même. Voilà, c'est avec Anna... Enfin, ce qu'en dit la bande-annonce, toujours. C'est avec Anna Girardot,
l'excellent
Olivier Gourmet,
oui.
Et puis Julien Frison, sociétaire de la Comédie Française.
De la Comédie Française, n'est-ce pas ?
Voilà, ouais. C'est la guerre des prix.
Très bien.
Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Eh bien, écoutez, voilà, alors du coup, si naissance est déjà finie.
Eh bien, dites-le.
Eh bien, voilà, je le dis, enfin, jusqu'à ce que tout recommence.
Oh, bah, oui.
Eh bien, bien sûr, reprenons. Le cours de l'histoire, recommençons à parler de politique, de météo et de guerre, tout en écoutant bien évidemment le podcast de l'émission sur le site d'Aude Radio, rubrique Cinéscent. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. On se retrouvera en direct dès mardi prochain pour parler d'un homme et d'une femme qui ont marqué à leur manière l'histoire du cinéma.
Et ce sera à 14h pétante sur Aude Radio, bien entendu, 91.3.
En attendant, nous allons clore notre émission musicalement avec la perle du jour dénichée par Jean-Jacques.
Oui, alors bon, si j'avais respecté le thème du jour, n'est-ce pas, j'aurais pu vous infliger une chanson à rallonge. Le livre Guinness des records nous informe que celui-ci est détenu par le titre The Rise and Fall of Bossa Nova de Michael Bostwick, qui a duré 13 heures, 23 minutes et 32 secondes.
Bon,
ça fait un peu long,
pour l'émission.
Chanson finale. Voilà. Alors pour éviter l'overdose, je vous propose au contraire une chanson très courte. En 2003, le groupe High Monster sort la chanson The Blue Wrath, où le texte se limite à des entêtants la 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 d'enfants. Heureusement, tout cela ne dure qu'une minute 29.
Allez, à la semaine prochaine et en attendant,
bon vent à tous.